que votre règne arrive. Mon Dieu, puisque c'est vous qui nous faites demander que votre règne arrive, il est bien certain que petit à petit, et malgré les apparences qui pourraient parfois nous en faire douter, il vient, votre royaume. Oui, cela est sûr. La victoire sur le monde est remportée d'avance. Jésus nous l'a dit. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Aussi, mon Dieu, quelle confiance ne devons-nous pas montrer? En toute occasion, à tout moment, d'un bout du monde à l'autre, vous êtes le grand vainqueur. Certes, nous n'avons pas le droit de nous prévaloir de cette assurance, de nous en servir pour cacher notre paresse. Notre abstention dans votre service serait tout simplement une désertion. Mais confiance, confiance, espérez contre toute espérance. Nous savons, ô mon Dieu, que vous aurez le dernier mot. Le doute serait une injure, un blasphème. Mais alors, quelle sérénité, quelle paix, quelle joie! Ah, les hommes peuvent bien faire des folies. Leurs péchés peuvent bien amener des perturbations passagères dans le temps. Cela ne peut en rien ébranler le royaume. Ils peuvent essayer de construire, dans leur orgueil, des cités sans vous. Ces cités, ces empires terrestres croulent, et le royaume, le vôtre, ô mon Dieu, s'agrandit et prospère, les cœurs sont gagnés, les âmes se sanctifient. La louange monte chaque jour plus puissante. Que votre règne arrive. Oui, il en est du royaume comme d'un homme qui a jeté la semence sur la terre. Il se couche, il se lève, la nuit et le jour, et la semence germe et pousse, il ne sait pas comment. Ainsi, mon Dieu, c'est votre affaire. Le développement mystérieux du royaume est votre œuvre et votre secret. Ce développement, nous le savons, est infaillible. C'est donc à la confiance encore que vous nous invitez, mais c'est aussi au calme. Vous avez votre heure, et ce n'est pas à nous de devancer le temps que vous avez choisi. Nous sommes parfois si impatients que nous risquerions de gâter tout par nos brusqueries. Telle âme, tel peuple, cette famille, ce coin de terre, cet homme qui se cabre dans son orgueil, celui-ci qui roule encore dans le péché, je les attends à tel détour du chemin, à ce tournant de leur histoire qu'ils n'ont pas encore vécu et que je connais. Voilà ce que vous dites, ô mon Dieu. Et nous, prosternés à vos pieds, adorant vos divins mystères, rêvant follement à la cité céleste que nous voyons inondée de lumière où tout est pur, tout est beau, écoutant, ravis, les chants qui s'élèvent vers vous en cœurs puissants et doux, nous redisons lentement, avec piété, avec amour, notre Père, que votre règne arrive. Les premiers mots de la cinquième méditation sur le Pater nous faisaient tristement prévoir que l'abbé n'aurait pas le temps d'achever son commentaire de l'oraison dominicale. Il en circula cependant une septième, ce fut celle qui frappa le plus fortement M. H. Je me souviendrai toujours, dit-il, d'une méditation sur le Pater, celle du Fiat Voluntas Tua, ainsi présentée. Que votre volonté soit faite, oui, mon Dieu, quoi qu'il m'en coûte, la vôtre, non la mienne. Ah, c'est bien dur, car il y a tant de choses que j'aime. Aussi j'hésite, je n'en ai pas le courage, mais enfin j'essaierai, je lutterai. Et puis, mon Dieu, eh bien, oui, que votre volonté, la vôtre, soit faite. Tout ce que vous voudrez. Ouf, je l'ai dit. C'était beaucoup mieux encore que cela, mais je ne saurais le transcrire. Il se peut que nous ayons la dernière méditation de la série, la date l'indique trop clairement, dans le texte qui suit, bien qu'il porte un titre différent, mais de lui-même si atrocement suggestif. À mes frères prisonniers, parce qu'ils ont faim. Seigneur, puisque cette pensée de la nourriture quotidienne occupe tant nos esprits, qu'elle revient à tout moment, qu'elle nous occupe sans cesse, que nos prières mêmes ne peuvent que difficilement être faites sans qu'elle nous assaille, pourquoi, au lieu de toujours nous la reprocher comme d'une faute, n'essayerions-nous pas de la sanctifier et d'en faire quelque chose de méritoire? C'est pourquoi, ce matin, je voudrais méditer quelque peu cette demande du Pater, que je n'avais jusqu'alors probablement jamais comprise. Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, Seigneur, nous savons maintenant ce que nous demandons. En vérité, il fallait cette épreuve pour que nous comprenions entièrement, avec tous les sens que vous lui avez donnés, cette magnifique prière qui a jailli sur vos lèvres à la demande de Pierre. Sans doute, ce que vous voulez que nous demandions d'abord, c'est le pain substantiel dont notre âme a besoin. Mais n'avez-vous pas voulu aussi que nous sachions demander cette nourriture avec laquelle notre pauvre corps se soutient ? Enfants gâtés que nous étions, nous ne savions pas apprécier les bienfaits dont vous nous aviez comblés. Comme si c'était un dû de votre part, c'est à peine si nous disions merci. Et si nous le disions, c'était du bout des lèvres. Et le malheur est tombé sur nous. La misère est venue, comme celle que nous avions entendue raconter ou lue dans de vieilles histoires, en tout cas qui était toujours pour d'autres. Cette fois, c'est bien pour nous. Et nous sommes, en effet, à demander le pain quotidien, ou tout juste le pain, le morceau de pain, la tranche de pain qui empêche nos entrailles de crier trop fort et nous permette, en apaisant un peu notre continuelle fringale, de penser à autre chose qu'à manger. Non pas comme autrefois, au pays, la brioche des jours de fête dont la croûte dorée craquait sous le couteau. Non pas même ce pain de chez nous, le gros pain comme on disait, pour le distinguer de celui de fantaisie, c'en était une en effet, mais qui était blanc et bon. Mais seulement le pain que l'on nous sert ici, le pain de l'exil, de la misère, le pain des larmes, le pain de la pénitence, et qui en a la couleur. C'est cela seulement que nous demandons, Seigneur, pour aujourd'hui, pas pour demain, non, quotidien. Nous n'avions pas bien compris. Il nous fallait des réserves, de l'avance qui dépassait une saine prudence. Et vous voulez que nous ayons confiance. Vous voulez que nous comptions sur votre providence. Nous avons si souvent désiré autre chose que du pain et murmuré pour ce qui nous semblait insuffisant. Il y a eu tant de recherches dans le boire et le manger, tant d'excès peut-être. Alors que, tout près, des malheureux manquaient du nécessaire. Seigneur, pardon. Nous comprenons maintenant la parole de l'enfant prodigue qui nous avait toujours semblé quelque peu exagérée. Désirer se nourrir de ce que l'on jetait, des épluchures, de ce que l'on donne aux pourceaux. Faut-il l'avouer ? Hélas, nous l'avons éprouvé. Nous comprenons mieux aussi pourquoi vous avez promis de récompenser la moindre chose faite en votre nom pour soulager un malheureux, le verre d'eau donné à un pauvre pour étancher sa soif. Peut-être aurons-nous le cœur moins dur, le geste plus généreux et la main plus largement ouverte. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Venez les bénis de mon Père pour recevoir la récompense qui vous a été préparée. Seigneur, il serait à croire que nous n'avions pas pris au sérieux l'Évangile. Ce qui est certain, c'est que nous n'avions pas médité vos paroles avec assez d'attention. Non, il fallait que nous ayons faim. Mais bien sûr, nous ne nous arrêtons pas à ce pain de misère et qui nourrit frère l'âne. Combien notre esprit, notre cœur, notre âme ont besoin de ce pain quotidien de la vérité, de la consolation, de la grâce. Mais là encore, nous voudrions savoir l'avenir. Nous désirerions des consolations en abondance pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons toujours peur que vous nous manquiez, et vous nous redites comme à saint Paul, « Ma grâce te suffit, aujourd'hui comme elle te suffira demain. Marche avec confiance. » Vraiment, nous ne savions pas que cette demande fût si pleine, si chargée de souhaits, et nous nous promettons désormais de dire le Pater avec plus de ferveur. Mais puisque c'est vous-même qui nous le faites demander, ce pain quotidien, comment dès lors n'aurions-nous pas confiance ? Nous le demandons pour nous, pour ceux que nous aimons et pour les autres aussi, afin qu'ils vous bénissent. Nous le demandons pour nos frères de misère, pour les malheureux, pour tous enfin, puisqu'une commune misère, en nous faisant crier vers vous, nous rappelle que nous sommes tous vos fils, ô notre Père. Donnez le pain quotidien à tous ceux qui ne savent pas que c'est de vous qu'ils ont besoin, que c'est d'inanition qu'ils périssent, de faim spirituelle qu'ils meurent. Et à nous qui sommes dans cette prison, accordez à notre esprit, qui se trouble parfois, ces pensées qui, venant de vous, lui garderont la paix. Donnez à notre cœur qui a tant souffert les consolations dont il a besoin et l'amour pour lequel il est fait. Nourrissez notre âme tout entière de votre grâce, c'est-à-dire de vous-même, et qu'alors avec vous, par vous, en vous, comme la première fois que cette prière est sortie de vos lèvres d'homme, nous redisions avec plus de confiance que jamais et sûrs d'être exaucés, notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est ainsi que tout le jour notre pensée s'élèvera vers vous. Daignez, Seigneur, la bénir, l'accepter et l'exaucer. Amen. Septembre 1943. L'ami fidèle de l'abbé Derry conserve également le souvenir d'une autre méditation sur la vocation sacerdotale, dont bien malheureusement le texte ne nous est pas parvenu. « Quelle sainteté on y admirait » note-t-il. Et je dois vous dire qu'à la messe du dimanche suivant, où j'avais le plaisir d'être son voisin, je le remerciais de son papier. Il me dit « Ah, mon cher monsieur H, combien nous aussi, prêtres, nous sommes parfois au-dessous de notre ministère. » Quelle responsabilité nous avons. Si le bon Dieu le permet, lorsque je rentrerai, je ferai part à mes confrères de tout ce que j'ai appris en réfléchissant et en méditant dans ma cellule de prisonnier. Il nous reste enfin un dernier texte de méditation qui n'est pas daté et qui vraisemblablement ne dut pas circuler parmi les détenus, car il est tout personnel. En juger par les premiers paragraphes, l'abbé ne connaît pas encore la sentence qui le frappera. Il se prépare néanmoins à offrir sa vie à Dieu si l'heure est proche où il devra la lui remettre. On ne nous eût pas pardonné de n'avoir pas publié ces lignes si sincères et si belles. Ma mort. Mon Dieu, quelle grâce immense vous me faites en me permettant que je puisse penser longuement à ma mort, en permettant aussi que je puisse vous l'offrir. C'est vrai. Je mourrai. Quand ? Vous seul le savez, mon Dieu. Mais je pense que j'aurais pu mourir déjà bien des fois et que je n'aurais pas été aussi bien préparé. Je mourrai donc, c'est sûr. Comment ? Cela est encore un mystère. Mais c'est précisément pour cela que je veux y penser. Sera-ce tout d'un coup, sans que j'aie le temps de me tourner vers vous ? Peut-être. Sera-ce après une longue maladie et une lente agonie? On n'est pas capable de grand-chose à ces moments-là. Je le sais par expérience, car j'ai été malade. Mais j'ai vu aussi des malades et des mourants dont les facultés étaient bien affaiblies par la souffrance. Alors, mon Dieu, oui, merci. Faites mes pensées, donnez-moi les sentiments que je dois avoir, faites-moi résigner, abandonner, généreux, aimant. Faites-moi aimer ma mort. Je ne suis pas assez saint pour avoir le sourire en en parlant. Et d'ailleurs, pour tous, elle est un châtiment. Mais elle a l'acte suprême que vous voulez qu'il soit offert et auquel vous attachez, j'en suis sûr, le rachat de bien des misères. Je crois même, et je ne peux pas me tromper, n'est-ce pas, mon Dieu, que pour beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu la possibilité ou le loisir de vivre en chrétien, ou bien encore qui n'ont pas voulu, remettant toujours au lendemain leur conversion, c'est par leur mort que vous leur faites payer leurs dettes. Grâce des grâces, bonté toujours à l'affût pour sauver les pécheurs. Votre Fils a racheté le monde et mérité par les moindres actes de sa vie, et cependant, c'est à sa mort sur la croix qu'il a voulu attacher plus particulièrement le prix de nos âmes. On peut bien trembler en pensant à la mort, car la pauvre nature humaine est bien faible. L'esprit se trouble, le cœur défaille. Et cependant, on ne peut pas ne pas l'aimer. Vous savez bien, Jésus, la peur que nous aurions, le tremblement que prendrait tout notre être et l'espèce de répulsion naturelle que nous aurions pour la mort. Et c'est pourquoi vous avez voulu, moi aussi, mourir, pour nous donner l'exemple et nous aider. Alors, mon Dieu, sûr de votre grâce, malgré mes péchés et mes misères, que craindrais-je? Pourquoi aurais-je peur de la mort? Mon Dieu, vous me comprenez bien. Vous voyez mes sentiments. Je ne fais pas le malin, non, mais j'ai confiance en vous. Je compte sur votre grâce. J'attends, j'espère, j'aime. Oh, comme je voudrais bien mourir. Comme je voudrais être complètement abandonné entre vos mains. Je vois en ce moment Jésus présenté à la foule ingrate et méchante après sa flagellation. J'entends les cris « Tolé, tolé, enlevez-le, à mort !» Comment n'accepterais-je pas de bon cœur de vous ressembler un peu, moi, mon Dieu, votre prêtre? Et je vous vois mourant sur la croix. Je me tais, j'écoute et je regarde. Mais mon Dieu, vous qui connaissez le fond des cœurs, vous pour qui rien n'est caché, vous savez ce qu'il y a dans le mien de désir et d'amour. Mon Dieu, prenez tout cela, purifiez, purifiez mes intentions, infusez votre esprit à la moindre de mes pensées lorsque je songe à la mort. Lorsque je dis « je vous l'offre », est-ce bien vrai? Est-ce bien selon votre volonté? Eh bien, là encore, j'ai confiance en votre grâce. Et je pense à la Vierge Marie, ma mère. Je la vois portée dans le ciel par les anges et... par la grâce de ce mystère, je lui demande de m'aider à bien mourir, d'être bien près de moi au moment du grand passage. Et c'est aussi à Saint Joseph, mort entre les bras de Jésus et de Marie, que je m'adresse en suppliant. Faites, ô mon Dieu, que cette pensée de ma mort me soit habituelle et familière. Notre sœur la mort, disait Saint François d'Assise, créature que nous devons utiliser pour le plus grand bien de notre âme et pour l'édification du prochain, disait saint Ignace. Ma mort, ma dernière offrande, ma dernière messe. Mon Dieu, faites qu'elle rachète toutes mes autres offrandes, mal faites peut-être ou incomplètes. Faites-la totale, généreuse, joyeuse. Mon Dieu, en pleine conscience, en pleine possession de moi-même, de tout mon cœur, de toute mon âme, en disant pardon, en criant merci, en disant je vous aime, je vous offre ma mort. L'heure du sacrifice. Prêtre, tu le seras, mais c'est un saint prêtre qu'il faut être, et tu ne seras tel que par la croix. Cette déclaration que l'abbé Esqueré faisait à son fils bien-aimé en des conjonctures où, humainement parlant, la route du sacerdoce lui semblait barrée, était donc prophétique jusqu'au bout. Dieu avait voulu que Roger fût prêtre, et lui s'était laissé faire, tout en criant très haut son indignité. Dieu voulut encore, et par des moyens qui ne sont pas ceux dont les hommes dressent le catalogue, que son prêtre s'éleva jusqu'à la sainteté et, tout aussi docilement, filialement, amoureusement, Roger s'est laissé conduire. Privation, dénuement, isolement, il accepte tout, sans cesser de considérer comme un serviteur sans mérite. Dieu ne permit pas cependant qu'il fût privé de tout apostolat. Roger n'aurait pas pu y tenir. Roger veut aller au ciel, mais vous savez bien, Seigneur, qu'il ne pourrait pas y entrer tout seul. Il a toujours travaillé en équipe, il a toujours entraîné les marcheurs qui le suivaient sac au dos. Ô Père, notre Père, préparez plusieurs places dans votre maison aux nombreuses demeures. Voici votre petit gars, celui qui, à 10 ans, gambadait joyeusement dans l'avenue de Saxe pour se rendre au patro. Voici le jeune vicaire des Vitriaux, l'abbé du bon conseil que tous assiégeaient, se disputaient, écartelaient, et qui ne repoussa jamais personne. Voici l'un des plus beaux soldats de France. Il a tant de fois bravé la mort que vous ne vouliez pas encore de lui. Il se montra si compatissant et si tendre pour les blessés qui mouraient en appelant leur mère. Il n'a jamais reculé, car il était brave. Et c'est pourquoi il ne consentit point à déposer les armes. Comme lui, des centaines, puis des milliers de Français jurèrent de libérer notre pays d'un ennemi qui déchaîna la guerre en maudissant votre Christ. Ils sont là, un bon nombre, dans la prison où Roger s'applique à vous faire aimer d'eux. Et lui, doucement, se prépare et les prépare au sort que vous connaissez. Seigneur, vous les soutenez par votre miséricorde, car leur âme est troublée. L'heure du sacrifice est venue pour eux, et la puissance des ténèbres, l'heure où le calice ne s'éloignera pas sans qu'ils ne le boivent, l'heure aussi, Seigneur, où ils vont vous glorifier. Si notre cher prisonnier cherche par tous les moyens possibles à ce que ses co-détenus correspondent aux grâces dont Dieu accompagne les jours menaçants dans lesquels ils sont entrés, lui-même, nous venons de le voir, s'efforce de les recevoir avec son humilité habituelle. Ses journées sont à la lettre une oraison continuelle, qui la conduit sur des sommets où Dieu tient aux âmes un langage intraduisible. Sa prière passe alternativement de l'action de grâce à l'abandon. Toutefois, ceux que Dieu attire sur de telles cimes doivent les gravir à la sueur de leur front, à la force des jarrets. La faiblesse humaine est là qui les inclinerait à relâcher leurs efforts. Et elle est extrême, la faiblesse de ces hommes, à la peau flasque et terreuse, qui depuis 2 ans souffre de la faim. Aussi, l'abbé doit-il se surveiller et discipliner son courage, témoin ces notes de sa main que l'aumônier de la prison put recueillir. Je travaille, avec la grâce du bon Dieu, à anéantir tout désir en moi. Je crois même y être arrivé, du moins l'avoir conçu. Je sais que c'est pour un temps, ou plutôt pour un jour, et qu'il faudra recommencer demain. Mais n'est-ce pas cela, s'immoler chaque jour sur l'autel avec le Christ? C'est la messe réalisée vraiment. Il y a quelque chose d'extrêmement doux, d'apaisant, à se sentir ainsi entre les mains de Dieu. La vie d'enfant spirituel dont parlait sainte Thérèse, n'est-ce pas cela? Le « si vous ne devenez pas comme des petits-enfants », oui, je le crois, c'est cela. C'est plus sûr de s'abandonner ainsi, et si on le fait bien complètement, c'est le secret de la sainteté. Ô mon Dieu, s'il était possible, si vous vouliez, ce que d'autres, pourquoi pas moi, parole de saint Augustin avant sa conversion, avec votre grâce, ô mon Dieu, tout est possible. J'ai dit, c'est plus sûr, mais c'est aussi plus facile. La première condition, c'est de reconnaître que je ne puis rien, que je ne sais rien. Je suis comme l'enfant qui se coupe avec un tranchet qu'il prend pour un jouet, qui se brûle avec la flamme qui l'attire, qui s'empoisonne avec ce qu'il croit une boisson. Alors oui, c'est plus facile d'être comme l'enfant entre les mains de son père, de se laisser guider, mener en tout, de n'agir qu'avec la grâce, de prendre la main du Christ et d'avancer ainsi sans crainte. Il n'y a pas de doute, c'est le secret. Et cela paraît tout simple. Tout le monde peut se mettre dans ses dispositions. De là me vient une grande paix, aucune crainte, aucune inquiétude. Je sais que c'est Dieu qui me mène, je me laisse conduire. Comme c'est simple, c'est enfantin. Oui, je me le rappelle, j'avais pensé cela autrefois, et l'avais, en effet, la paix. Je suis sûr, absolument sûr, que Dieu ne veut que mon bien. Mais avant de penser à mon bonheur, je veux penser à sa gloire. Je redécouvre les premiers principes de vie sainte, et j'y trouve la paix, la liberté et même la joie. Oh, une joie qui n'a rien de terrestre, rien de sensible, où le cœur même ne ressent rien, joie de l'esprit, mais que l'on peut avoir, celle-là, toujours, qui peut marcher de concert, qui comprendrait, avec la souffrance, les tristesses, l'agonie du cœur, la sueur de sang. Mon Dieu, merci. J'ai compris un peu. Demain, j'aurai oublié. Demain, je méditerai de nouveau. Demain, je m'offrirai encore. Faites, ô mon Dieu, que je revienne sans cesse, sans me lasser jamais. Espérance. Je remercie le bon Dieu de me faire marcher dans les ténèbres. J'y suis dans une paix profonde. Si je m'écoutais, je demanderais à Jésus de me faire partager ses tristesses. Mais j'aurais peur d'être égoïste en voulant pour moi la meilleure part, c'est-à-dire la souffrance. À chaque instant, il me guide et m'inspire au milieu des occupations de la journée. Offrons les œuvres des autres, communion des saints. J'ai soif, Jésus, la soif des âmes. Tu meurs, tu vivras autant que Dieu. J'ai voulu mourir comme toi, Jésus. Unis-toi à moi, et je dirai en ton âme les paroles que mon Père y attend de moi, de toi. Une seule attente fait battre mon cœur. C'est l'amour que je recevrai et celui que je pourrai donner. Je suis heureux de mourir parce que, bien plus qu'ici-bas, je serai utile aux âmes qui me sont chères. Ce qui m'attire vers la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur. C'est l'espoir de l'aimer enfin comme je l'ai tant désiré, et la pensée que je pourrais le faire aimer d'une multitude d'âmes qui le béniront éternellement. Les notes s'achèvent sur ce cri où son âme apostolique se révèle une dernière fois. Après la mort, ce sera le temps des conquêtes. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et tout ce que je ne puis vous dire ici-bas, je vous le ferai comprendre du haut des cieux. Mon Dieu, je vous aime. Quand il trace ces lignes, l'abbé Derry a été condamné à mort. Pour les détenus de Düsseldorf, le procès dura du 23 août au 4 septembre. L'abbé fut jugé, si l'on peut dire, le 28 août. Un prêtre alsacien a rapporté son opinion sur la façon dont l'instruction du procès avait été conduite, et qui diminuait considérablement les chances de nos compagnons, ne parlant pas l'allemand. On peut présumer que le tribunal ne leur a pas marqué plus de bienveillance. L'un de ceux qui échappèrent à ses griffes, et non l'un des moindres, est d'avis que, pour l'abbé Derry, sa qualité de prêtre catholique ne faisait qu'aggraver son cas aux yeux des Allemands. Encore que jusqu'à présent aucun fait précis ne nous autorise à soutenir cette hypothèse, ce que l'on sait de la haine des nazis contre l'Église catholique suffirait à la rendre plausible. Peu de temps après l'arrestation de l'abbé, M. l'aumônier Stock nous dit « Dans les prisons de Hitler, il y a plus de prêtres catholiques allemands que de français ». D'autre part, lorsque Raymond Ponchel sera condamné à son tour, il fera remettre à l'abbé un billet où, le cœur ulcéré, il livre ses impressions sur les juges qui ont prononcé contre lui le verdict de mort. « Mon cher Roger, lui écrit-il, la comédie est finie. Après un simulacre de jugement, nous voici candidats à la mort. » La lettre se termine ainsi. « Marc Dufour partage notre sort. » Pauvre gosse, je prie pour lui. Nous serons bientôt réunis dans la mort et j'espère près du bon Dieu. Il n'y a aucun espoir dans le recours en grâce, dernière scène d'une comédie sinistre. Je t'embrasse, cher Roger. Adieu et vive la France. Il est probable que les sentiments de l'abbé Derry ne devaient pas être très différents de ceux de son ami. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est qu'au cours de l'instruction, l'abbé Derry n'éluda aucune des charges relevées contre lui, espérant qu'il pourrait ainsi décharger d'autant ses camarades. Et j'ai pareillement l'assurance que ni à l'instruction, ni à l'audience, il n'a voulu dissimuler sa propre activité patriotique. Ce chevalier chrétien, qui oncle ne mentit, était trop loyal pour affirmer le contraire de la vérité en ce qui le concernait exclusivement. Il était trop fier pour chercher une échappatoire. Il avait tout le respect de lui-même pour paraître seulement solliciter l'indulgence des ennemis de son pays. Lui, l'ancien ouvrier parisien, le soldat et l'aumônier qui avait porté les couleurs de la France, n'a pas baissé les yeux devant les juges omnipotents qui disposaient de sa vie et qui dévisageaient ce prêtre dont la soutane râpée était trop large pour son corps amaigri. Il les a regardés bien en face, afin qu'ils puissent voir de près un vrai Français. En leur âme et conscience, les magistrats le déclarèrent coupable d'espionnage et, pour ce fait, condamné à être décapité. Puis, avec une dignité parfaite, l'un des figurants lui indiqua, au bas d'une feuille, l'endroit où il devait signer son recours en grâce. Tout se passa selon la formule connue, on ne peut plus correctement. Rentré dans sa cellule, l'abbé s'inquiète avant tout de ses frères qui seront condamnés comme lui. Il les a accompagnés dans les combats de la terre. Il veut les avoir près de lui pour recevoir la couronne d'immortalité. Il prie pour eux. Il leur fait passer les méditations qui tourneront leurs pensées vers Dieu. À quelques-uns, il réapprend à prier. Pour son compte, il est pleinement abandonné à la Providence. Comme pour le soldat fauché par la mitraille, la guerre est terminée pour lui. Il n'en parlera plus. D'autres la continueront. D'autres réussiront mieux que lui. D'autres vaincront quand il n'y sera plus. Il est tombé. Il n'a plus qu'à attendre l'heure où il verra le Seigneur vers qui tous ses désirs le portent désormais. Au fond, comme Jésus, nous ne sommes tous venus que pour cette heure, l'heure où tout s'éclaire, mais qui est aussi l'heure des adieux. Le 2 septembre, il distrait du paquet de papier dont il doit faire des sacs, ceux-là sont destinés à envelopper quelques ersatz de café, une feuille, puis une seconde. Interrompu par le va-et-vient de la sentinelle dont les bottes martèlent le pavé du corridor, il prend congé de ceux qu'il ne reverra plus. Nos visages passent l'un après l'autre devant sa mémoire. Il nous revoit tous, jeunes et grands, tandis que son crayon court sur le recto et le verso des feuilles. Pas une rature, mais beaucoup de mots soulignés, à son habitude, ceux que dans une conversation il aurait appuyé de ce regard direct qui ajoutait tant de force à sa parole. Pas un mot contre ceux qu'ils font mourir. Son tact naturel lui défend de rien écrire qui puisse offenser ou mettre en danger l'aumônier à qui il se confie pour nous. Sa dernière lettre. Mon cher monsieur le curé, je suis à quelques jours, peut-être à quelques heures de ma mort. Dieu est bien bon qui me donne une grande paix et cette joie de l'esprit dont parle l'auteur de l'Imitation. Il n'y a rien pour la nature, le corps est brisé, le cœur est meurtri, mais l'âme est dans les hauteurs. Je ne cesse de remercier le bon Dieu qui, dans son immense bonté, m'a redonné tant de ferveur. J'aurais pu mourir, sinon dans le péché, du moins dans une tiédeur que la trop grande activité extérieure risquait d'entraîner. Or la paille des cachots, le jeûne le plus rigoureux, les humiliations et les misères de toutes sortes, la solitude, tout ce que Dieu dans sa providence a permis pour mon bien, joint à la prière et à l'oraison continuelle, m'ont conduit sur des sommets où il fait beau et bon. Ma vie depuis 2 ans n'a été qu'une messe continue, et ce sera bientôt, après l'immolation du calvaire, la communion la plus intime et l'action de grâce éternelle. Comme Dieu est bon, car ma confiance est plus grande que la crainte que je pourrais concevoir à cause de mes péchés. Je demande cependant vos prières et des messes pour toutes celles que je n'aurais pas dites. C'est surtout cela qui fut ma grosse souffrance et qui est l'objet de mes craintes. Je vous demande pardon de n'avoir pas été ce que j'aurais dû être, comme je demande pardon à tous ceux à qui, involontairement, j'aurais pu faire de la peine ou causer quelque tort. Je n'ai toujours voulu que le bien. Si je me suis trompé dans les moyens, je me rattraperai bientôt en me donnant pour tous. Quel regret de ne pouvoir plus me livrer à l'apostolat et de savoir que ma vie est terminée ici-bas. Le bon Dieu l'avait-il marqué si courte? Mes responsabilités ne sont-elles pas très grandes d'avoir réduit ma vie qu'il voulait pour lui seul plus longue? Mais je dépasse et j'abandonne ces craintes pour me jeter le plus complètement possible en Dieu. J'offre ma vie pour toutes les grandes causes que j'aurais voulu mieux servir, pour Dieu, pour l'Église, pour la France, pour ma chère paroisse Saint-François-Xavier, où je suis si souvent par la pensée, pour mon cher bon conseil, pour tous ceux que j'aime. Puisse ma mort être ma messe la mieux célébrée, la plus généreusement et la plus joyeusement offerte. Je vais bientôt, cher monsieur le curé, voir celui que, malgré tout, j'ai tant aimé. Je vais enfin l'aimer comme j'aurais voulu l'aimer toute ma vie, et j'espère de là-haut faire plus de bien que je n'en ai fait ici-bas. J'aurais encore tant de choses à vous dire. Mon cœur est plein à déborder et je suis obligé de terminer. Si vous saviez dans quelles conditions je griffonne ce mot, les bottes. Je pense à tous, je n'oublie personne. Je prie pour tous, j'ai tant aimé. Mais il me semble que j'aime bien mieux encore et bientôt de là-haut comme je vous aiderai. Comme Dieu est bon de me faire finir sur la paille d'un cachot, dans le dénuement le plus absolu, mais que j'aime, dans l'extrême pauvreté et l'obéissance, comme la prière et l'oraison sont faciles. Mon bréviaire que j'ai pu dire presque toujours a été ma grande consolation, ma nourriture quotidienne avec l'imitation de Jésus-Christ. Je n'avais jamais autant goûté les psaumes. Je demande encore pardon à tous ceux que j'aurais pu contrister. Priez beaucoup pour moi. Demandez à mes chers confrères la charité de messe. Et puis à bientôt, au ciel, où je suis déjà par la pensée et le désir. Je me permets de vous embrasser très filialement. Je vous redis toute mon affection, et puis devinez tout ce que je ne dis pas, mais dont mon cœur est plein. Dieu soit béni et vive la France. Roger, 2 septembre 43. Sans doute dut-il attendre quelque temps avant de voir M. Merzbach pour lui remettre le message qu'il nous adresse. Et puisqu'il reste des blancs sur les feuilles, il écrit en travers plusieurs textes sacrés qui nourrissaient sa prière, ainsi que de nouvelles recommandations. Vita mutatur, non tollitur, laetus obtuli universa, dominus pars, bonum est mihi qua humiliasti me. Quam dilecta tabernacula tua, Domine, fiat voluntas tua. On accepte joyeusement tout de lui. Notre vie change, elle ne nous est pas ravie. J'ai tout offert avec joie. Ce texte est utilisé dans la liturgie pour l'antienne offertoire de la messe de la dédicace d'une église. Le Seigneur est mon partage, ce sont les premiers mots du verset que le clerc prononce à la cérémonie de la tonsure. Il m'a été bon d'être humilié. Que vos demeures me sont chères, Seigneur, que votre volonté soit faite. Me permettrai-je un conseil à de plus jeunes confrères? Que l'on ne cache pas la vérité à des malades qui vont mourir. La mort, c'est le voile qui se déchire. Post-scriptum, comme je voudrais bien mourir. Je le demande sans cesse au bon Dieu. Je m'étonne d'avoir une si grande paix. C'est probablement parce que je n'ai pas bien conscience de mes péchés. Le bon Dieu fait dominer en moi la confiance et la joie du sacrifice. Priez cependant beaucoup pour moi. Bien mourir. Ce serait au moins cela de bien dans ma vie dont le bon Dieu pourrait tenir compte. Oh, s'il voulait bien me donner sa grâce et accepter ma vie, quelle messe! S'il continue à m'aider, j'irai en chantant. Donner sa vie pour ceux que l'on aime, quel bonheur! Je prie spécialement pour les vocations. Que le bon Dieu donne à son Église, à la France, à la paroisse, de saints prêtres. Je supplie que l'on dise des messes pour toutes celles que je n'aurais pas dites. Vous devez trouver mon testament chez moi. Seuls mes meubles reviennent à ma famille. Tout l'argent est pour les œuvres. Mon linge pour les pauvres. L'abbé fut emmené sur le lieu de l'exécution. En dehors des fonctionnaires indispensables, Personne n'est admis à assister à l'horrible opération. L'interprète n'aura pas besoin de traduire les dernières paroles de la victime. Sur la marge de son dernier autel, c'est dans la langue maternelle de l'Église que l'abbé dira, avant que les aides ne se saisissent de lui, les mots que depuis longtemps il répète dans son cœur, « Introibo ad altare Dei », je m'approcherai de l'autel de Dieu.